Le journal, Sarah Guibaudot. Bonjour Sarah.
Bonjour. La justice sévit contre les propriétaires qui abusent de la location sur Airbnb. Révélation France Inter et Le Parisien ce matin. La ville de Paris a obtenu depuis le début de l'année des condamnations pour 600 000 euros. La droite en marche après les défaites électorales. Le parti Les Républicains planche sur sa refondation. Le député Daniel Fasquel consulte les militants. Reportage. Un rapport de la contrôleure des prisons accable la prison de Château-Thierry dans l'Aisne, où 80% des détenus du service psychiatrie relèveraient justement de l'hôpital psychiatrique. Dans ce journal aussi, le Qatar supprime les visas pour 80 pays pour se donner un peu d'air. Vacances pluvieuses, musées heureux, nous irons à Caen. À Londres, c'est parti pour 2 jours d'épreuve et on mise sur Kevin Mayer dans le décathlon. Et puis à l'Orangerie, à Paris, une très belle exposition entre Paris et Tokyo. À 8h20, votre invitée Laetitia.
Oui, nous recevrons Patrice Van Hersel, auteur de L'aventure actuelle telle que je l'ai vécue, qui sortira à la rentrée chez Albin Michel. Retour sur l'histoire de ce magazine pas comme les autres, né il y a 50 ans. Actuelle, c'était l'époque de ce que l'on a appelé la contre-culture, du punk, de la vie en communauté, de la drogue à gogo avec ses reportages longs et son esprit provocateur. Toutes vos questions à Patrice Van Hersel dans l'interactive à partir de 8h40 au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
France Inter. Louer un appartement inoccupé sur Airbnb, cela peut rapporter gros, mais désormais, cela peut aussi coûter très cher. Des propriétaires parisiens l'ont appris à leurs dépens. Les condamnations explosent. Il faut dire, Maxime Debs, que la mairie de Paris met le paquet pour identifier ceux qui sont devenus, sans le dire, des loueurs quasi-professionnels.
Exploser, c'est peu de le dire. En seulement un an à Paris, le montant des sanctions infligées par les tribunaux a été multiplié, non pas par 2, non pas par 3, mais par 14. L'an dernier, la somme totale des amendes atteignait péniblement 45 000 euros. On est passé à 600 000 aujourd'hui. Au total, depuis janvier, ce sont près d'une trentaine de propriétaires qui ont déjà été épinglés et condamnés pour avoir dépassé le seuil réglementaire des 120 jours de location dans l'année. Quoi de plus normal qu'ils passent à la caisse pour Yann Brossat, l'adjoint au maire en charge du logement à la ville de Paris.
L'objectif, c'est de dire à ceux qui ne respectent pas les règles, à ceux qui nous font perdre des logements dans une ville qui en manque déjà, qu'ils seront rattrapés par la patrouille et qu'on ne peut pas, en toute connaissance de cause, parce qu'aujourd'hui ces règles sont connues, transformer son logement en machine à cash et se transformer en spéculateur.
Yann Brossat, pour qui les efforts de la ville finissent par payer à l'année, ce sont 25 inspecteurs qui traquent les abus des propriétaires dans la capitale par des enquêtes de voisinage, mais aussi des opérations coup de poing dans des quartiers ciblés. Lorsqu'ils sont pris d'un doute, les agents de la ville saisissent le tribunal qui peut depuis très récemment prononcer une amende allant jusqu'à 50 000 euros en fonction de l'abus constaté.
Les condamnations qui explosent pour les locations illégales de type Airbnb, c'est aussi à retrouver sur franceinter.fr. Après le scandale Fillon, certains à droite continuent de défendre les emplois familiaux au Parlement. Des députés Les Républicains ont saisi le Conseil constitutionnel sur la loi de moralisation de la vie publique, premier volet de la réforme qui avait pourtant été adoptée avec une très large majorité la semaine dernière. Les élus LR demandent aussi au Conseil constitutionnel de se prononcer sur l'article qui autorise le gouvernement a créé par ordonnance une banque de la démocratie aux contours encore très flous. Le parti Les Républicains, qui a envoyé à tous ses adhérents un questionnaire pour lancer la refondation, comment remonter la pente, quel projet pour la droite. De son côté, le député du Pas-de-Calais, Daniel Fasquel, a entrepris un tour de France pour écouter les militants et les sympathisants. Étape à Châteauroux, suivie par Audrey Morellato.
Ils ont besoin de parler, de se parler, une habitude qu'ils avaient perdue mais qui leur fait visiblement du bien. Ici, on n'évoque pas l'affaire Fillon mais on se pose une question, que faire de ceux qui ont suivi En Marche, comme Nadine.
Est-ce que maintenant vous me mettez dehors? Moi je fais toujours partie des Républicains, la preuve c'est que je suis là.
Nadine s'est laissée tenter aux législatives mais veut garder sa carte chez LR, surtout si les militants prennent maintenant la parole.
On n'a jamais fait ça. On était bon, on se sentait bon pour tenir les permanences, coller les affiches. On nous appelait d'ailleurs les tracteuses. Et puis c'est tout.
François Hermier, engagé à droite depuis les années 80, soutient notamment la présence de simples militants dans le bureau politique.
Il faut que les militants, effectivement, ce soient des empêcheurs de décider pour le peuple. Voilà, donc qu'ils acceptent effectivement qu'il y ait des militants qui, dans un bureau politique, évite aux grands élus qui sont dans des stratosphères de faire des conneries. Il y a énormément de choses à faire, mais encore faut-il que nos élus, ils écoutent.
Des idées qui permettront peut-être de rajeunir la moyenne d'âge pour la prochaine réunion. Cette fois-ci, en tout cas, les moins de 30 ans se comptaient sur les doigts d'une main.
Le sénateur Michel Mercier a dû s'expliquer mercredi devant les enquêteurs de l'Office anticorruption sur l'emploi de ses deux filles comme assistantes parlementaires. Ses filles ont aussi été interrogées. L'une d'entre elles a notamment été salariée par son père entre 2012 et 2014 alors qu'elle habitait à Londres. Elle a expliqué qu'elle venait très régulièrement à Paris. Cette audition rapide de Michel Mercier, une semaine après l'ouverture de l'enquête préliminaire, avait été programmée pour qu'il puisse être entendu avant d'être nommé au Conseil constitutionnel. Mais l'ancien ministre de la Justice a préféré renoncer à son siège. La visite des émissaires de la contrôleure générale des prisons date de 2015, mais leur rapport sur la maison centrale de Château-Thierry dans l'Aisne vient d'être publié et il fait froid dans le dos. Ils ont constaté que dans le service psychiatrique, les détenus étaient soumis à des traitements indignes et notamment des injections forcées, Myriam El-Kurdi.
Ce rapport dénonce, je cite, un exercice de la psychiatrie plus coercitif que soignant et contraire à la déontologie. Les contrôleurs ont constaté notamment le recours fréquent aux injections forcées avec l'aide de surveillants munis de boucliers, une pratique illégale depuis 2011. Ils citent l'exemple d'un patient pour qui une telle piqûre a été prescrite et réalisée sans qu'un médecin ne l'ait ausculté ni même rencontré. Témoignage du détenu, je ne dis rien, je ne revendique pas, par crainte d'être piqué. Autre constat accablant, un énorme manque d'hygiène. Les auteurs du rapport parlent d'odeurs pestilentielles. Ils décrivent des cellules jonchées de détritus occupées par des détenus en état d'incurie, voire de prostration, incapables d'assurer l'entretien de leurs cellules à cause de leurs troubles mentaux. Quant à l'équipe sanitaire, elle est en sous-effectif. Aucun psychiatre n'est présent les mardis, jeudis, vendredis matin, par exemple. Et pourtant, la proportion de personnes présentant des troubles psychotiques est importante dans cette prison. 80 à 90% des 74 détenus qui s'y trouvaient en mars 2015 relèveraient de l'hôpital psychiatrique s'ils étaient libres, souligne le rapport.
L'incendie qui s'était déclaré hier après-midi à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Marseille a été fixé dans la soirée. Dans le secteur de la Mérindole, 400 personnes avaient été évacuées d'un camping. Au Portugal, après deux semaines d'accalmie, une nouvelle série d'incendies fait rage, notamment dans le centre, près d'Abrantes et dans le nord. Plusieurs autoroutes sont coupées par endroits comme celle qui relie Lisbonne à Porto.
8h08 sur France Inter, la suite du journal Sarah Guibaudot. L'Europe commence à mieux retracer le parcours des œufs qu'on tapinait au fipronil. Fipronil, je vais y arriver, exporté par les Pays-Bas et la Belgique.
Oui, du Royaume-Uni à la Roumanie, au total 12 pays sont maintenant concernés par cette crise sanitaire. L'enquête s'est accélérée hier avec des perquisitions en Belgique et deux arrestations aux Pays-Bas. Et puis ce matin, la Commission européenne annonce qu'elle va convoquer une réunion sur la crise des œufs contaminés. Le Qatar tente de contourner le blocus économique imposé par ses puissants voisins depuis le 5 juin, comme l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui l'accusent de soutenir le terrorisme. Le petit émirat a supprimé les visas d'entrée pour 80 nationalités, officiellement pour stimuler le tourisme, Bertrand Galichet.
Le Qatar ne se laissera pas étouffer par ses voisins, c'est le sens de cette exemption de visa pour les citoyens de 80 pays. Les ressortissants de 33 d'entre eux pourront rester près de 6 mois sur place. Les nationalités concernées ne sont pas encore annoncées. Les autorités privilégient les critères sécuritaires et le pouvoir d'achat des visiteurs. Une ouverture indispensable pour le Qatar, explique Georges Malbruno, journaliste au Figaro et spécialiste de la région.
C'est une nécessité économique dans la mesure où le Qatar est soumis à des sanctions implacables et ne voit plus beaucoup de touristes arriver chez lui. Mais c'est surtout une mesure qui est destinée à montrer finalement que le Qatar est plus ouvert que ses voisins, qu'il était victime des sanctions qui lui ont été imposées par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ça s'inscrit, cette mesure, dans cette guerre d'influence et de communication.
Une stratégie d'ouverture vers le reste du monde pratiquée depuis longtemps par le Qatar sur le plan économique, militaire, sportif et culturel et qui devient vital. Les autorités viennent de créer un statut de résident permanent pour certains étrangers, une première dans la région.
L'horreur au large des côtes du Yémen, des passeurs auraient jeté à la mer quelques 300 migrants en 24 heures. Il y a des dizaines de morts ou portés disparus. Les victimes venaient d'Éthiopie et de Somalie. Les passeurs auraient pris peur après avoir aperçu ce qui semblait être des représentants des autorités, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Dans les pays riches, des centres commerciaux rivalisent dans la démesure pour attirer les clients. À Shanghai, celui-ci propose à des Chinois stressés par le travail de se défouler, même s'il doit y avoir un peu de casse, Angélique Forget.
L'assiette que Zhang Xuelin tenait entre ses mains vient de se briser en 1000 morceaux. Cette comptable de 28 ans, stressée par le travail, l'a projetée de toutes ses forces contre le mur et ça lui a fait beaucoup de bien.
Pour me détendre, d'habitude, je mange ou je vais au cinéma. Mais ici, je me relâche vraiment. Quand je jette mon assiette, j'ai l'impression de jeter tout mon stress avec.
Cet atelier des fouloirs propose 11 salles différentes pour relâcher la pression. On peut par exemple frapper dans un punching ball géant ou encore s'adonner à une bataille de coussins. Le patron des lieux, Shu Yangjia, espère lancer ce concept dans d'autres villes chinoises.
Avec le développement économique des grandes villes du pays, tout s'accélère. Il y a plus de stress, donc les gens ont besoin de lieux comme cela pour se défouler et pour rester performants.
Li Jin, elle, est souvent inquiète par l'état de son compte en banque. Pour se détendre, elle est venue faire une sieste sur un matelas couvert de billets.
Quand je m'allonge ici, j'ai l'impression que tout cet argent m'appartient et que je suis la plus riche du monde. À Shanghai, il y a tellement de choses qui sont chères, le logement, mais tous les loisirs aussi.
Depuis son ouverture il y a un mois, 500 personnes se rendent ici tous les jours, moyennant 10 euros le ticket d'entrée. À Shanghai, Angélique Forget, France Inter.
Aux Mondiaux d'athlétisme à Londres, après l'or de Pierre-Antoine Boss, l'équipe de France d'athlétisme compte sur Kevin Mayer dans le décathlon qui commence aujourd'hui. Le vice-champion olympique des Jeux de Rio est l'un des favoris de la compétition et cela ne le met pas forcément très à l'aise, Franck Ballanger.
Kevin Mayer est jeune, 25 ans, beau, grand, 1m86, fort, 82 kg et très doué. Vice-champion olympique l'année passée, derrière Ashton Eaton, il est souvent présenté comme le successeur du recordman du monde américain qui vient de prendre sa retraite. Mais malgré tout cela, Kevin Mayer souffre. Il est terrifié par la peur de rater.
J'imagine même pas le stress que j'ai depuis 15 jours et que j'ai avant chaque décathlon. Il y a des moments mais très difficiles. Là, on va en rigoler, mais je suis en dépression totale. Ça me tombe dessus, c'est pas agréable. Clairement, j'ai envie de chialer tous les jours et tout, je suis pas bien, j'ai pas envie de faire le décathlon et tout. Mais je sais que là, dès que je suis sur la piste, je me sens bien.
N'importe qui serait effrayé par l'état dans lequel se met Kevin Mayer avant un décathlon, mais pas Bertrand Valsin, son entraîneur.
Tout est normal. Non, il y a 2-3 ans, ça m'aurait bien stressé, mais aujourd'hui, on sait que ça fait partie de Kevin. Plus l'enjeu est important, plus il va stresser. Voilà, je m'affole plus. On apprend à jouer avec pour l'emmener encore plus en forme le jour J.
Kevin Mayer arrive au championnat du monde sans référence pour son premier décathlon depuis celui des Jeux de Rio l'année passée, mais pas sans assurance cet hiver. Il a remporté l'or de l'heptathlon au championnat d'Europe en salle et il assure avoir progressé dans tous les domaines, sauf peut-être la sérénité. À Londres, Franck Ballanger, France Inter.
Au programme aussi aujourd'hui, Quentin Bigot en finale du lancer du marteau et au lancer de disque, la doyenne de l'équipe de France, Mélina Robert-Michon, tentera de se qualifier. On parlait du Qatar. Avec un tel soutien, les moyens du Paris Saint-Germain semblent décidément illimités. Après le Brésilien Neymar, on parle d'un nouveau transfert à prix d'or. Le club de football de la capitale serait prêt à débourser 180 millions d'euros pour le monégasque Mbappé. C'est le dernier gros week-end de chasse et croisée sur les routes. Bison futé a classé ce vendredi orange. Grosse difficulté, c'est pour demain, surtout sur la 7. Des vacanciers qui bousculent un peu leur planning avec la fraîcheur et la pluie. Un peu moins de plages, direction les musées et les cinémas. Le reportage à Caen de Marcelin Robine.
Journée pluvieuse, journée heureuse pour le mémorial de Caen. Les quatre caisses sont ouvertes. Dehors, la file d'attente est longue. Les parapluies et les caouets sont de sortie. Nicole vient de Bordeaux. Elle confie avoir changé de programme en voyant la pluie arriver.
On avait prévu normalement Pegasus aujourd'hui, mais vu le temps, on s'est dit qu'il valait mieux passer la journée à l'abri et voir Caen et le mémorial.
Un peu plus loin, Antonio de Barcelone, le mauvais temps ne le décourage pas. Nous sommes venus aujourd'hui parce que la visite était prévue aujourd'hui. C'est important pour nous de connaître l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Sur le port de Caen, les restaurateurs sont plutôt contents. Leur salle chauffée attire les touristes. Mathieu Malbran, responsable du restaurant Casserole et Bouchons.
Les gens viennent un peu se mettre au chaud à l'écart de la pluie afin de se sécher un petit peu. La pluie, ça peut être une bonne chose, surtout en Normandie.
Les plus jeunes sont également heureux. Grâce à la pluie, les parents et les grands-parents les emmènent au cinéma, comme Benoît, père de deux petits garçons.
On essaie de leur faire plaisir, on essaie de trouver des animations, on essaie de les distraire. Donc on a décidé d'aller au cinéma voir Cars 3.
La pluie ne déplaît donc pas à tout le monde. Elle devrait pourtant être chassée par le soleil dans les prochains jours.
Entre l'Europe et le Japon, la peinture raconte toute une histoire de fascination et d'influence réciproque. C'est ce que nous montre au musée de l'Orangerie à Paris l'exposition Tokyo-Paris, une collection de chefs-d'œuvre exceptionnels que l'on doit à une dynastie industrielle japonaise, Isabelle Pasquier.
De l'impressionnisme à Pollock, des nymphéas et le crépuscule à Venise de Monet, Renoir, le jeune homme au piano de Caillebotte, un autoportrait de Manet, des Matisse, des Picasso, Fujita. À l'origine de cette collection, Shojiro Ishibashi, qui a fait fortune en inventant des semelles en caoutchouc avant de se lancer dans les pneus. Le fil conducteur de l'exposition, c'est ce dialogue entre Paris et le Japon. Monet est fasciné par le japonisme et les artistes japonais s'extasient devant l'art occidental. C'est le style yoga qui n'a rien à voir avec des positions acrobatiques. Cécile Girardeau, commissaire de l'exposition.
Les artistes japonais ont aussi été fascinés par la France et par l'Europe et qu'ils se sont appropriés ces techniques occidentales. C'est ce qui a donné l'école yoga. Et dans les artistes de l'école yoga, il y a aussi tous ceux qui ont fait le voyage. Il y a énormément d'élèves japonais qui viennent se former dans les ateliers, en France notamment. Et c'est vrai dès la seconde moitié du 19e siècle. C'est quelque chose qui va perdurer puisqu'on montre aussi dans l'exposition un tableau de Fujita, le plus connu pour nous puisqu'il est resté très longtemps à Paris. Et que nous, on l'a complètement intégré à ce qu'on appelle l'école de Paris et qu'on l'a associé même complètement à Montparnasse aussi.
Et ces chefs-d'œuvre sont à admirer comme un best-of exceptionnel d'une grande page de l'histoire de l'art.
Une nouvelle avancée scientifique dans le domaine des greffes d'organes, on la doit à une équipe internationale de l'université de Harvard aux États-Unis. Alors que les donneurs humains sont trop rares, l'objectif est de permettre des transplantations d'organes de porc. L'équipe a réussi à limiter les risques de rejet.
Merci Sarah Guibaudot. La météo, Caroline Osterman. Alors vous osez dire, il y a de la rumba dans l'air.
Mais oui, le temps est instable sur une grande partie du pays. On a une forme variée de nuages qui défilent. Dans le détail, les nuages sont plus clairsemés dans le sud-ouest, sur les côtes aquitaines et jusqu'à la basse Normandie. On a une poche sans averse vers la Champagne-Ardenne, mais avec des brumes. Un mélange de pluie et d'éclaircies sur la région parisienne et des nuages gris sur le Limousin, le Massif central, Rhône-Alpes, l'Alsace et la Franche-Comté. Avec de la pluie.
Et sur la Méditerranée, Caroline, soleil généreux, mais beaucoup de vent.
Le Mistral et la Tramontane se renforcent. On attend des rafales à 90 km par heure sur le littoral varois, jusqu'à 120 km sur le Cap Corse et dans les Bouches de Bonifacio. C'est une journée à risque sur le front des incendies. Et côté température, on a toujours ce frisson qui court le long de la colonne vertébrale. Les moyennes sont fraîches. 9 à 14 ce matin. Dans l'après-midi, ça se réchauffe à peine. 16 à 24. Et il faut attendre lundi pour profiter d'une journée estivale au nord de la Loire.
Merci Caroline. Osterman. La route, Élise Thibault, il y a un accident à Toulouse.
Oui, sur l'autoroute A64, hein, juste en entrant sur la rocade toulousaine, c'est ralenti dans ce secteur. Difficile aussi ce matin d'atteindre Grenoble par l'A480. La circulation est complètement bloquée à cause d'un accident. Comptez déjà une demi-heure d'attente. Il pleut fortement en ce moment dans tout ce secteur, ce qui explique peut-être cet autre accident en ce moment sur l'A43, juste avant d'atteindre Chambéry.
Merci, Élise Thibault. En direct du PC Mobilité de Radio France.